Que peut la poésie ? Dans un discours prononcé à Ramallah lors de la publication de l'un de ses recueils qui s'appelait « Comme les fleurs d'amandier au plus loin », il y a un peu plus de 10 ans, le poète Mahmoud Darwish disait ceci « La poésie nous offre une marge de liberté et une compensation métaphorique à notre impuissance à changer la réalité. Elle nous relie à une langue se situant au-dessus des conditions qui nous enchaînent et nous empêchent d'être en symbiose avec notre vécu humain. Elle peut également aider le sujet à se comprendre lui-même en se libérant de ce qui l'empêche de voler librement dans un espace sans limite, même quand c'est une poésie qui parle de l'amour, de la nature, d'une rose que l'on contemple ou de la peur qu'inspire une mort ordinaire. C'est un acte de résistance que de voir la poésie assimiler la force de la vie ordinaire qui est en nous. Pourquoi alors accusons-nous la poésie d'apostasie lorsqu'elle assume les beautés sensibles et la liberté d'imagination qui sont en nous et résiste à la laideur par la beauté ? La beauté est en effet liberté, et la liberté beauté, c'est ainsi que la poésie qui défend la vie devient une forme de résistance. Mahmoud Darwish, 2007.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est poète, auteur d'une œuvre récompensée il y a 3 semaines par le prix Goncourt de la poésie. Le 3e volet de sa trilogie poétique Un cri fendu en mille paraissait en septembre dernier. C'est une étourdissante invitation au voyage et une réflexion en creux sur la présence et la fonction du poète. Bonjour Yvon Lemaine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous, surtout.
À nos côtés. Pourquoi, à votre avis, a-t-on aujourd'hui plus que jamais besoin de poètes ? Tiens.
Je pense pour faire attention à ce qu'on dit, à la langue, qui est en danger de mort, vraiment, je crois.
En danger de mort ?
Oui, enfin en danger, peut-être pas de mort, j'exagère un peu, mais en danger d'être usée avant même qu'elle ne soit dite par la politique qui ne dit pas, enfin qui dit ce qu'elle ne pense plus parfois, ou par la communication qui exagère. La poésie veille au grain et fait attention à ce qu'elle dit.
Oui, c'est un terme que vous employez souvent, veiller, veiller sur la langue, ou même veiller la langue. Je vous ai lu, qu'est-ce qui sans arrêt la menace en réalité ? Ce sont ces discours suturés, vides, creux.
Oui, absolument. C'est à partir du moment où on ne croit plus aux mots qu'on dit, ce n'est pas la peine de les dire. C'est tout simple.
Mais alors Yvon Lemaine, le poète est donc forcément quelqu'un qui résiste ?
Alors le poème du poète, oui, le poète a aussi ses défauts, hein, c'est pas, il est pas exemplaire, mais il essaie par son poème, en veillant au grain de ce qu'il dit justement, de se construire. Le poème construit le poète qui écrit le poème, quoi. C'est un dialogue entre les deux, ça je crois vraiment, oui.
Vous avez le sentiment qu'on l'entend suffisamment, la parole des poètes, qu'elle a encore du poids ?
Alors qu'on l'entend suffisamment, non, ça c'est sûr. Qu'elle a encore du poids, oui, ne serait-ce que par sa discrétion. À la limite, peut-être qu'elle n'est pas allée, elle ne doit pas aller forcément sur le même terrain, justement, de ce dont je viens de parler. Et que, par sa pénombre, son clair-obscur, elle a quelque chose à dire, discrètement, et je dirais en silence, mais un silence qui parle, quoi.
Malgré ses poèmes, malgré tous les poèmes écrits par tous les poètes, je sais que les poèmes ne servent pas à ceux qui savent ce qu'ils font. C'est ce que vous écrivez dans un texte qui s'appelle « À 5 kilomètres et à 1 siècle de Goethe », Buchenwald. Qu'est-ce que ça veut dire que les poèmes ne servent pas à ceux qui savent ce qu'ils font, Yvon Lemaine ?
Ben, malheureusement, on sait que les nazis pouvaient être cultivés. Ils écoutaient Schubert, qui est un ange. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Donc ça, c'est vrai. C'est quand même une immense question, ça. Et là, j'ai pas de réponse. J'y suis allé à Buchenwald et j'y suis allé dans la maison de Goethe, qui était ministre de la guerre d'ailleurs, hein, mais qui avait aussi une petite pièce où il écrivait ses poèmes à côté de son fils. C'est cette pièce-là, avec une table et une chaise, 2 chaises, une petite et une grande, qui m'a bouleversé.
Et c'est de ce bouleversement qu'est né un poème, comme ça ?
Oui, en plus j'étais avec un ami dont la femme est née juive en 1940 à Berlin. Elle s'appelait Sarah, elle est devenue Brigitte pour survivre, et elle est morte en Sarah à nouveau.
Dans cette phrase, Yvon Lemaine, il y a aussi un aveu d'impuissance. Un aveu d'impuissance pour le poète. Qu'est-ce que vous en faites, vous, justement ? Comment est-ce que vous faites pour composer avec ça ?
Moi, j'ai un grand ami qui s'appelle Claude Vigée, qui est un grand poète juif, justement. Et Claude, j'ai écrit un poème qui s'appelle « Donne-moi des livres qui finissent bien ». Il me dit, tu es vraiment naïf. Mais, parce que souvent les grands romans finissent mal, comme la vie, ne serait-ce que parce qu'on meurt et qu'on fait souffrir ceux qu'on quitte. Mais ça n'empêche pas d'essayer. Et Claude a écrit son premier, il s'appelait « La lutte avec l'ange ». Voilà, donc il faut quand même... C'est pas parce qu'on échoue qu'il ne faut pas le faire.
Vous avez l'impression que toute cette carrière, toute cette trajectoire qui a été la vôtre, ça a été de la lutte, justement ?
Oui, quand même, au début, oui, tout à fait. Mais de la lutte est rééquilibrée sans arrêt avec l'amour. Voilà, parce que si j'ai duré aussi longtemps, c'est que, ma foi, je l'ai fait avec d'autres, avec les autres, ne serait-ce que ceux qui m'écoutaient et en qui j'avais confiance. Quand on lit un poème de Rumi, par exemple, à des gens qui lisent, qui lisent pas beaucoup, c'est qu'on leur fait confiance.
Vous dites ceux qui m'écoutaient, c'est très beau, parce qu'effectivement votre poésie est une poésie qui se lit à haute voix, et on vous a souvent vu, entendu, écouté à haute voix. Yvon Lemaine, en quoi la poésie n'est-elle jamais plus vivante que lorsqu'elle est adressée, justement lue à haute voix?
Alors, il y a des poètes pour qui ça, c'est difficile, qui sont timides tout simplement, mais qui n'arrivent pas, n'ont pas envie. Il y a des poèmes qui se lisent en silence. Ça, évidemment, il y a des grands poèmes. Mais bon, les miens, je les entends. Mes poèmes, je les entends. Donc immédiatement, dès que j'ai écrit mon premier poème, j'ai été voir un copain pour le lui dire, pour le faire sonner, quoi, hein, comme de la musique, parce que la poésie a à voir avec la musique. Et alors, quand on dit un poème, le mien ou celui d'un autre, ça m'est totalement égal, et que je sens que les gens entendent ce que je dis, ce que je transporte, eh bien, on est tous les deux sur le même cheval et on galope, quoi. Et je suis extrêmement heureux parce que c'est comme si on dansait.
Mais c'est fou quand même cette histoire. Vous avez frappé à la porte d'un de vos amis, vous lui avez dit votre poème comme
ça? Oui, oui. Moi, j'étais un peu excessif quand j'étais jeune.
Mais c'était quel poème, Yvon?
C'est mon premier.
Vous enfin, en mon souvenez premier un vrai. Peu
oui, c'est un poème, forcément d'amour, qui commence comme ça, petite fille qui regarde comme pour la première fois, pupille de nouveau-né toujours bleu, petite fille, etc., etc.
Avec quelle voix est-ce que vous avez grandi, vous, Yvon Lemaine?
C'est-à-dire?
Quelle voix autour de vous?
Alors moi j'ai eu la chance, très jeune, hein, 18-19 ans, de frapper à la porte. Comme j'étais orphelin, j'avais besoin de père, et j'ai frappé à la porte de trois pères. Geivik, qui est un géant pour moi, un grand poète immense, qui est un peu sévère, qui m'a appris à serrer les boulons, disons. Jean Malrieux, qui est mort en 76, que j'adorais, c'est comme un coup de foudre là pour le coup, avec lui, et qui était un homme solaire, et qui a écrit un vers, Le bruit court qu'on peut être heureux, et j'ai fait 2000 bornes en bagnole en tombant en panne 3-4 fois pour aller le voir. Et en Bretagne, Xavier Graal, qui est mort à 50 ans, en ayant écrit un poème que je trouve qui est comme un chef-d'œuvre, qui s'appelle Solo, où il dit c'est vers juste ça, mais de votre terre j'ai tout aimé, les mers et les saisons, et les hommes étranges, meilleurs que leurs idées. Et comme la haine est difficile, je trouve que ce poème aujourd'hui a encore plus de sens que quand il a écrit, en 81.
Parce que ce dont il s'agit, c'est quand même de les transmettre, ces voix. C'est quand même de les dire,
absolument,
effectivement, tout fort.
On est peuplé, hein. On est peuplé de tous nos maîtres. Alors moi, maintenant, je suis assez vieux pour avoir des petits élèves qui gambadent. Qui gambadent et qui viennent me voir. Et quand je les vois, j'ai deux, trois jeunes comme ça que je surveille du coin de l'œil. Et quand je les vois eux aussi dire leur texte ou écrire, je suis très ému parce que je me vois à leur âge et moi, on m'a accueilli, donc j'accueille, quoi.
Cette transmission orale, elle va pas disparaître, Yvon Lemaine,
rassurez-moi. Non, c'est impossible. Et je pense même que la poésie, dite ou écrite, ne peut pas. Elle durera, ne serait-ce qu'elle est, parce qu'elle est née avec l'humanité. Donc, si elle disparaît, c'est que l'humanité disparaît.
Pourtant, vous avez remarqué que on voit de moins en moins l'intérêt de connaître des textes par cœur, des poèmes par cœur, comme si on n'en avait plus besoin, comme si c'était un effort qui pouvait sembler inutile, accessoire.
C'est dommage, d'abord ça épate nos copines, tout simplement. Comme ça, on va au milieu d'un bois, on se balade, et hop, un petit poème japonais, toujours bienvenu. Et ensuite...
J'adore vos techniques de drague, Yvon Lemaine.
Enfin, bon, c'était autrefois,
il y a longtemps. Le petit poème japonais, au fond d'un bois.
C'était avant la guerre. Mais non, parce que apprendre par cœur, c'est revisiter sa mémoire, c'est la nettoyer, c'est renaître.
Mais dans quelle mesure est-ce qu'on vit dans une époque qui fabrique de l'oubli, à votre avis?
Parce qu'il y a peut-être trop d'informations. On peut pas tout encaisser, quoi. Alors, à force d'être entouré, d'être harcelé, d'être comme par un immense lasso, par un monde infini, par l'Internet, on ne concentre plus, on ne se concentre plus sur un point.
Alors, comment on lutte contre l'oubli? Par la poésie, justement?
Oui, ça j'en suis... Enfin, bien sûr, puisque c'est d'abord... Il y a une grande poésie orale, la poésie des Inuits. elle a été transportée de bouche à oreille comme ça pendant 2000 ans et sauvée dans les années 1920-30 par un explorateur danois, Rasmussen, qui a écouté un grand chaman inuit qui s'appelait Orpingali, qui était l'équivalent de Victor Hugo, plus médecin, plus tout. Et il a dit des poèmes jusqu'à épuisement et Rasmussen les a écrits et moi j'en connais un par cœur.
Bah vous nous le dites là.
Tout au commencement des temps, quand les hommes et les animaux vivaient en harmonie, un homme pouvait devenir un animal s'il le voulait, et un animal pouvait devenir un homme s'il le voulait. Ça ne faisait pas de différence, tous parlaient la même langue. C'était le temps où les mots étaient magiques. L'esprit humain avait un pouvoir mystérieux. Un mot dit par hasard pouvait avoir d'étranges conséquences. S'il devenait soudain vivant, et ce que les hommes voulaient, cela pouvait arriver. Tout ce qu'il fallait faire, c'était dire le mot. Personne ne pouvait expliquer cela. C'était comme ça.
C'est bouleversant. Yvon Le Maine, vous l'avez pas oublié. Parce que c'est vrai que dans cette émission, il y en a une qui oublie tout, hein, malheur tout. Peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité tête en l'air, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 30 mai.
Au peuple de Victor Hugo, il te ressemble. Il est terrible et pacifique.
Mot pour mot, la commune de la Charité-sur-Loire dans la Nièvre lance aux quatre coins du mot nouveau rendez-vous pluridisciplinaire qui vient remplacer l'ancien festival du mot au programme, plus de proximité entre le public et les artistes et la suppression du concours du mot de l'année. Jusqu'au 2 juin, les rues de la ville vont ainsi accueillir près de 80 événements, lectures, concerts, expositions, ateliers. À voir Ariane Ascaride qui lit Serge Valetti ou l'humoriste Reda Sediki.
Un tramway, des gens avec des parapluies et me semble-t-il pas mal de pluie. Ce souvenir, ça me rajeunit pas.
Quand le santé va, tout va. Le musée Mère Marine de Bordeaux met à l'honneur l'illustrateur père du petit Nicolas, enfant du pays. Dans une grande expo titrée « Sans paix en liberté », près de 300 dessins originaux ont été réunis. Les premières esquisses datant des années 50 jusqu'aux derniers inédits, en passant par quelques trésors de rareté, comme l'un des uniques dessins de l'artiste consacré à Bordeaux, sous des trompes d'eau. L'événement propose une déambulation jouissive dans l'univers chic et cabotin du Bordelais et retrace 70 ans de création quand même. Que du bon.
Broadway has never been broader. It's not just for gays anymore.
Triomphe à Broadway, les théâtres de la mythique avenue new-yorkaise ont connu une saison record cette année, tant au niveau des recettes que des entrées, avec 14,7 millions de places vendues et 1,82 milliard de dollars encaissés. Le chiffre d'affaires des spectacles a quasiment doublé en 10 ans, plus que triplé en 20 ans. Incontournable sensation de la saison, To Kill a Mockingbird, adaptation du classique de Harper Lee, qui a cassé la baraque au début de l'année. Allez! Well, I think I'm in love, 'cause lately. Et enfin, Métronomie relance les machines après 3 ans de silence depuis l'album Summer 08 en 2016. Le groupe de pop britannique vient de faire son grand retour en révélant Lately, un nouveau morceau accompagné de son clip façon Chérie, j'ai rétréci les gosses. Extrait du prochain album qui devrait voir le jour cet automne. La chanson réunit voix de tête, break qui tombe à pic, kick de batterie envoûtant, du pur métronomie pop, rock, swingant. L'été s'annonce dansant. Et le poète breton, Yvon Le Maine, Goncourt de la poésie 2019, invité de Boomerang ce matin. Votre dernier recueil, Yvon, Un cri fendu en mille, c'est comme un récit de voyage qui nous fait traverser l'Europe, mais aussi la Chine, le Brésil ou encore Haïti. Ce goût du voyage, comment il est né, tiens?
En traversant la route devant chez moi, aller voir mon voisin. Parce que l'autre est un mystère. J'ai écrit un petit texte où je dis « Va à l'étranger comme chez ton ami et chez ton ami comme à l'étranger ».
Ça veut dire aussi que l'écriture n'est toujours d'un mouvement, ne serait-ce oui. Que traverser la rue.
Oui, oui, ah oui, oui, tendre une main ou une oreille. Écoutez, ou c'est un corps qui marche avec des oreilles et qui écoute et avec une bouche qui parle, quoi.
C'est toujours aller vers l'autre, en fait, à la rencontre de l'autre.
Oui, ça c'est grâce à mes parents aussi, hein, parce que j'ai été élevé par. Quand on était petit, on disait que la curiosité était un vilain défaut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon père était malade, il était souvent à la maison, il est mort jeune, mais il faisait partie de la fraternité des malades, par exemple. Ma mère a fait du théâtre amateur. Enfin, je suis pas tombé du ciel seulement.
Ils étaient poètes aussi.
Eh ben, ma mère aimait le théâtre, donc elle aimait. Elle, dans mon premier livre, j'ai publié des lettres d'elle et elle avait des phrases assez solides. Hein. Par exemple, un jour il neige et je lui dis, elle me dit, il neige, c'est tout noir. Elle aurait dû dire c'est tout blanc, sauf que le ciel était noir. Ça, c'est un poème. Alors, par contre, elle était aussi assez, avec elle, il fallait tenir sa route, parce qu'un jour, je mettais du linge à sécher avec elle. Enfin, je tirais le linge, je le pliais, vous savez, on tire, on le prend dans le nez, du linge qui a séché dans les prairies. Et il y a un poème qui me vient, par le coup du drap sur le nez, même plié dans l'armoire, le ciel sent bon. Et je lui dis, voilà, il me dit, oh, tu t'es pas foulé. Voilà. Alors je lui dis, moi, je te le redis, parce qu'un poème court, il faut le dire trois fois, pour ne pas l'oublier.
Il faut aimer les autres pour être poète, Yvon Le Maine.
Enfin, là, je réponds qu'à ma place, parce que oui, vaut mieux, quoi. C'est mieux que de les détester, oui, bien sûr.
C'est la voix d'un autre, celle d'un ami, musicien, chanteur, Yann Fanch-Kemener, disparu le 16 mars dernier, que vous avez souhaité entendre ce matin. Qu'est-ce qui donnait à son travail, à son art, à son œuvre, toute son importance pour vous ?
Yann Fanch, je l'ai très bien connu. Hein. Je suis allé à son enterrement, il y avait 1500 personnes à son enterrement, tout un peuple. J'étais à côté du cercueil parce que je disais un poème de Xavier Gral, ce poème dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je regardais les gens. Et les gens se sont inclinés devant le cercueil pendant 3 heures dans une toute petite chapelle sous un ciel gris-bleu. Et tout un peuple est venu avec des têtes invraisemblables, des paysans, des ouvriers, des femmes. Tout le monde était là, 1500 personnes dans un tout petit village qui n'avait jamais vu autant de monde depuis jamais, quoi.
C'est ça, pourquoi, son œuvre, en fait.
Pourquoi les gens sont venus? Parce qu'ils sont venus lui dire merci. Et il est né dans une pauvreté absolue, mais vraiment absolue. Sa maman était lavandière et son père était ouvrier agricole, il ne savait pas se défendre. Sauf que sa mère lui a donné une voix. Il chantait déjà dans le ventre de sa mère, je pense.
On l'écoute, la voix de Yann Fanch-Kemener, rendant hommage au poète Gilles Paudry sur l'album Traces, Roudenou en breton.
Tu te crois seul, et puis quelqu'un se tient debout dans l'embrasure de l'aurore. Il ne dit rien. Sa main est close vers toi se tend, se ramifie à ton approche. Qui oserait? Si mince est la paroi de verre entre ce monde et l'autre. Mais à ses yeux qui le débordent, tu sens qu'il voudrait tant se délivrer de fraternelles confidences. Et comment soutenir le poids de ce visage cherchant asile et ressemblance à travers le miroir de ces mots sans famille? Je suis un homme de passage.
Qu'est-ce que vous entendez, Yvon Le Maine, dans la voix de Yann Fanch-Kemener?
Une grande douceur. Une femme et un homme en même temps. Par les paroles d'un moine, c'est assez drôle. Hein. Je connais bien Gilles Baudry, hein. Une fois par an, je vais...
C'est vrai qu'il était moine et poète, oui.
Il est, hein, Gilles. Et depuis 1985, je vais tous les ans, une fois par an, à l'abbaye de Landévennec, faire une petite lessive de mes péchés.
On retrouve le breton. Je suis un homme de passage, c'est bouleversant, ça.
Absolument, et puis c'est vrai. Mais là, au Festival Étonnant Voyageur, là, qui se déroule à la Pentecôte, on va passer un film sur Yann Fanch, qui s'appelle, le titre est magnifique, c'est un film en breton sous-titré, il s'appelle Passer en chantant. Yann Fanch est passé en chantant. Il est mort jeune, hein, quand même, 61 ans, et il est passé en chantant.
Quelle langue est-ce que c'est pour vous, le breton, qui vous le
même? Moi, mon père le parlait, mais il est mort, comme je vous disais, jeune, et ma mère est née à Paris, dans le 14e. Comme beaucoup de Bretons, et donc elle ne parlait pas le breton, et ma génération a vraiment été celle qui l'a perdu un peu. Alors j'ai été traduit en breton, par plusieurs grands poètes bretons d'ailleurs, mais je peux chanter, je comprends sans comprendre, c'est une langue inconnue mais pas étrangère, disons, c'est assez mystérieux, et j'ai vécu dans un petit village où tout était en breton, donc je butais toujours contre des mots que je ne comprenais pas et qui étaient des mots familiers. Donc ça crée de la poésie, ça, d'une certaine manière, ça crée une question, quoi.
C'est peut-être ça, la poésie, une question.
Et je pense que si on avait été bilingue, enfin, ça aurait été beaucoup mieux, parce que j'aurais pu être trilingue, quadrilingue, etc. Oui, la poésie, c'est une question. Absolument, oui. C'est une réponse à une question qui n'a pas été posée. C'est Bachelard qui dit ça, mais c'est vrai.
C'est quoi, on va en reparler, tous les deux, de ça? Juste après, la voix de Léo Ferré qui chantait Les Étrangers sur l'album L'Espoir, en 74. Vous la connaissez, cette chanson?
Très bien.
Ah oui, parce qu'il était question de Bretagne, vous le savez.
Mais il a vécu en Bretagne longtemps, hein. Je l'ai rencontré, j'ai mangé une fois avec lui. Il avait des yeux incroyables.
Il est question de don de soi aussi, il est question d'amitié. Qu'est-ce que vous en parlez bien d'amitié, Yvon Lemaine? Vous êtes sur France Inter avec vous, donc prix Goncourt de la poésie cette année. Vous écoutez Boomerang, on est ensemble.
Regarde là ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drape dans Paris. T'as les yeux de la mer, et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient, ou Brest pour les sauver, y a toujours un marin qui rallume son voile. Regarde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer à ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé, c'était la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme un avril de mon cul dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, l'eau chute, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là. La mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec notre galaxie, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on s'en.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Avec son cheveu au vent, indiscipliné, rebelle à souhait, son grand front, vous savez, il a cet air proverbial et touchant de ceux qui passent parfois trop longtemps sans parler, dans un silence de recueillement, l'œil vif, plein de malice, cependant, derrière une lunette ronde, hein, pratiquement ronde, on est quelque part entre une version braise d'Harry Potter, le curé de campagne, et mon oncle Jean, figure avec son petit pull bleu et sa chemise blanche qui sort, le poète Yvon Lemaine, prix Goncourt de la poésie cette année. Quand est-ce que vous avez su, Yvon, que vous aviez, pour reprendre le titre de l'un de vos recueils, besoin de poèmes, que la poésie était indispensable à votre vie?
Très tôt, je pense. Parce que quand j'étais petit, notre instituteur nous racontait les fables de La Fontaine juste après la cantine. C'était un temps de repos. Il s'assoyait sur le bureau et il nous racontait le loup et le chien, par exemple, ou les pauvres gens, etc. Et je me dis, mais ça parle de nous, ou les poèmes de Victor Hugo. Ça parle de nous et ça parle vraiment de nous.
C'est intéressant que vous citiez ces fables de La Fontaine, en l'occurrence. Dans quelle mesure l'écriture nous permet de rester en vie?
Le loup et le chien, par exemple. on est du côté du loup ou du côté du chien quand il dit viens, oh là t'as un petit, qu'est-ce que c'est, un petit collier, c'est rien, comment c'est rien, et le loup se barre. Alors on peut être, moi je suis un chien loup, disons quoi, voilà, j'ai fait un compromis, mais ce sont des poèmes qui, en plus la Fontaine s'est tellement tirée au cordeau que tant que la langue française durera, ça peut pas disparaître quoi. Et Victor Hugo, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Je ne peux rester loin de toi plus longtemps. Je suis allé à Vilquier à cause de ce poème. Et j'ai vu sur la tombe, c'est il y a 10 ans, j'ai vu sur la tombe le dernier vers du poème. Le ouvert et la bruyère en fleurs, quoi.
En parcourant votre dernier recueil, Yvon Lemaine, un cri fendu en mille, je suis tombé sur des vers qui m'ont saisi. Les vers d'un poème qui s'appelle Gerte et qui disent ceci. Il faut du silence aux mots pour ne pas rayer le chagrin. Il faut du silence autour des morts pour entendre leur vie. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est pour vous le silence, en fin de compte ?
Alors moi j'aime le silence, profondément. Chez moi par exemple, je me lève et je n'écoute rien jusqu'à 19h pile.
Alors il faut écouter Boomerang, hein. C'est à 9h10.
Oui, oui, excusez-moi. mais sérieusement, j'écoute parce que les poèmes sortent du silence. Ils sont, comme disait, je ne sais plus qui disait ça, mais ils sont traduits du silence, les poèmes.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'exercice de la poésie ?
Ah oui, je crois, oui, franchement. Puis où j'habite, il y a vraiment, on n'entend même pas les oiseaux voler.
Comment ça, où est-ce que vous habitez, vous ?
J'habite alors au bord d'un bois, et j'ai parfois des chevreuils qui passent, ou des mésanges, des bouvreuils, des rouges-gorges, qui me disent « je suis là, je suis là ». Et c'est marrant, quand on voit un oiseau, c'est lui qui nous a vus, et qui frappe à la porte, pour nous dire « regardez-moi ».
Yvon Lemaine, qu'est-ce que le silence a à voir avec la mort, pour vous, poète ?
Ah, alors, il y a deux, quand même, le silence, évidemment, il y a deux sortes de silence. Il y a le silence qui est terrible, c'est-à-dire on ne parle pas des gens absents, par exemple. Il y a les secrets de famille, quoi. Ce silence-là est effrayant, il peut créer des crimes. Et puis, il y a le silence qui est la mère de la musique, quoi. Et là, c'est un silence qui est... Qui nous fait entendre le monde. Moi, je suis allé en Cornouaille anglaise dans un endroit qui s'appelle Chichester. C'est l'endroit le plus silencieux que j'ai rencontré au monde. Et je dis, on entend la bruyère pousser et le corbeau ne pas voler. Et c'est un endroit assez mégalithique là, et j'étais très bien, quoi. Et j'étais lié à la musique des sphères, c'est vrai, la musique céleste.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites volontiers, Yvon Lemaine, que la mort a toujours été présente dans votre vie quotidienne. Cette omniprésence de la mort, de l'encou en breton, comment ça se manifeste ?
D'abord, dans ma vie, tout bêtement, par mon père qui est mort quand j'avais 12 ans, mon grand-père, j'en avais 6, et j'ai connu deux femmes qui sont mortes à 30 et 39 ans, une à 19, le jour de l'ascension d'ailleurs, 1989. Elle s'est tuée à 19 ans, un accident de voiture, sortie de boîte de nuit, quoi. Voilà, et j'ai écrit un poème pour elle qui s'appelle L'échappée blanche.
Et dans le poème que je viens de lire.
Gerte, c'est mon éditeur allemand qui a perdu sa femme dont je parlais tout à l'heure, qui était née juive à Berlin en 1940. C'était un grand amour, qui dit grand amour, parce que l'amour et la mort ont à voir. Le premier texte de l'histoire de la poésie, c'est Gilgamesh et Enkidu. Gilgamesh découvre, il est immortel jusqu'à ce qu'il aime Enkidu qui meurt. Et là, il découvre la mort avec l'amour. Et l'amour et la mort, c'est la même chose. Aimer au point de mourir si l'autre meurt. Ma mère, quand mon père est mort, pendant 5 ans, elle était vraiment KO. J'étais en face d'elle à table, je la voyais. Et après, elle s'est mise, elle était en noir, puis en gris et noir, puis en bleu, puis en rose, puis elle a recommencé. Mais l'amour et la mort, c'est la même chose. C'est le prix de l'amour, c'est la mort.
Il se trouve, puisque vous parlez de votre mère, qu'on va terminer cette émission avec elle, par un poème que vous avez écrit spécialement pour notre émission. C'est un très beau cadeau. C'est un poème qui s'appelle « Le plus long voyage parcouru ». Yvon Lemaine.
Quand je vais sur sa tombe, c'est comme si je retournais à la source, à la maison, au pays des questions avec réponse. Quand je vais sur sa tombe, c'est comme si sa tombe était au bout du bout de ma question. Sa tombe est à 20 kilomètres de ma maison, à des millions d'années-lumière des questions qui ont traversé ma nuit, découpées en morceaux, sauvées par le jour, par l'odeur du café, les 2 tranches de pain, le journal, rempli à ras la page de questions, celles des autres, avec parfois des réponses, mais celles des autres. Mes questions regardent par la fenêtre où les nuages aujourd'hui sont roses, hier ils étaient noirs. Mes questions cherchent un livre, du temps long et lent, en écho aux nouvelles pressées du jour du journal, du temps qui nous protège entre questions et réponses. Tant de questions, peu de réponses, ou seulement de hasard, comme un coup de foudre qui sait, a su, saura, saurait, aurait su. Mes questions se cognent aux pages de ma bibliothèque, se brisent contre ce proverbe chinois. Ah, manger sa chair et coucher sur sa peau. Tant de haine as-tu connu, tant de haine? Oui, il y a longtemps. Contre qui? Contre l'autre. La connais-tu encore? Oui. Contre qui? Contre moi et mes questions. Elles errent entre les poèmes où tous les vers sont possibles, même ceux qui nous sauvent. Le blanc coursier enjambe le précipice. Il me conduira sur la tombe de ma mère qui m'a donné la vie. La vie telle qu'elle l'a vécue, avec ses réponses sans question, parfois.
C'est fou comme ce poème éclaire tout ce que vous nous avez dit ce matin. Yvo Lemaine, merci infiniment d'être venu. Je rappelle que vous venez de remporter le prix Goncourt de la poésie, qu'une bonne partie de votre œuvre poétique est publiée aux si belles éditions Bruno Doucet. Plongez-vous dans ce que fait cette maison, dans d'autres maisons de poésie aussi. On en a tellement besoin, c'est tellement de bien. Pour cela, merci tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Bruce Springsteen, Hello Sunshine sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, dont je sens qu'elle va me dire merci là tout de suite.
Merci Augustin.